pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
9 hélicoptères, 4 blindés, des canons lanceurs d'eau, plus de 5000 bombes. Ce qu'on a vécu à Sainte-Soline le 25 mars, c'est du ressort du terrorisme d'État. Une politique visant à créer la terreur chez les cibles. Jamais, au grand jamais, n'aurait imaginé que des ordres visant à nous tuer seraient donnés et exécutés.
Les violences policières pour défendre un trou vide à Sainte-Soline sont une violence de l'État. Elles ont été ordonnées et couvertes par ses responsables. Elles font partie de la panoplie répressive dont l'État dispose pour défendre l'ordre établi quand celui-ci est contesté.
Il y a une vraie tradition française d'un maintien de l'ordre qui peuvent aller dans le sens d'une très grande violence. Nous résistons à quelque chose qui commence à ressembler très sérieusement au fascisme.
25 mars 2023, Sainte-Soline. 30 000 manifestantes et manifestants pacifiques, 3 000 gendarmes armés jusqu'aux dents qui défendent un grand trou vide, 5 200 grenades tirées. Au moins 200 blessés, dont 36 hospitalisés. La gendarmerie ouvre le feu, et donc des Black Blocs réagissent. 47 gendarmes blessés, nous dit-on. Malgré des actes illégaux commis par ces gendarmes, le procureur a clos l'enquête menée par des gendarmes sur des gendarmes. Et cette enquête, des militantes et militants veulent qu'elle soit rouverte par un magistrat indépendant. Salut les amis, c'est JBD pour Polémique, c'est la voix off.com et pour votre radio libre préférée, pour une émission très dense et éprouvante qui vous attend aujourd'hui. Une heure de paroles sans musique et un montage de ce qui s'est dit à Poitiers le 10 janvier 2026 lors de la réunion d'information organisée par Bassine Non Merci et par les parents de Serge qui a fait 2 mois de coma. Attention, avertissement aux personnes sensibles, cette émission contient des propos extrêmement violents, notamment 2 courts extraits de caméras piétons de gendarmes. Vous allez aussi entendre une synthèse du rapport rendu par la Ligue des droits de l'homme qui a observé cette manif. Et il en ressort que Sainte-Soline n'est pas une bavure des gendarmes auxquels, en haut lieu, on a donné l'ordre d'être violent, quitte à prendre le risque de tuer. Et ce n'est pas la première fois de notre histoire de France que l'État choisit la violence policière, quasi tradition française des dirigeants, au service d'intérêts capitalistes. Sainte-Soline est aussi un nouvel aperçu de ce que pourrait être notre quotidien sous gouvernement officiellement fasciste. Françoise Graziani, militante et maire de Serge, ouvre la réunion.
Bonjour, je vais parler au nom d'un collectif qui a porté plainte peu après la manifestation de Sainte-Soline pour dénoncer les violences policières et l'entrave volontaire à l'arrivée des secours pendant la manifestation. Ce collectif y comprend Michael, Serge, Alix et Olivier, 4 personnes qui ont été gravement blessées par les forces de l'ordre pendant la manifestation. Mais il comprend aussi des proches de Serge et de Michael, comme ils étaient alors tous les deux dans le coma. C'est Nathalie, la mère de Michael, et nous, Jean-Pierre et moi, les parents de Serge, qui avons porté plainte à leur place. Après 2 ans et demi de suspense, le procureur de la République, Frédéric Théillet, a récemment classé sans suite notre plainte collective. Confronté aux nombreux tirs non réglementaires de gendarmes que Mediapart et Libération ont rendus publics en diffusant le 5 novembre dernier des vidéos enregistrées par leurs caméras piétons, M. Théillet a tergiversé pendant 1 mois. Et puis le scandale créé par les vidéos et la pression de certains médias ou élus l'ont finalement conduit à annoncer l'ouverture d'une information judiciaire sur ces tirs. Par avance, il a minimisé les sanctions possibles de leurs auteurs en ne retenant que l'infraction de violence volontaire. Nous contestons ces décisions de Frédéric Théillet. Nous contestons aussi la façon dont il a procédé dans le traitement de l'enquête sur Sainte-Soline. Et notre critique vaut pour Philippe Astruc, le prédécesseur de Frédéric Théillet au tribunal de Rennes qui est en charge des affaires militaires. Ces 2 procureurs se sont en effet ingéniés à gommer ou à masquer la répression policière à Sainte-Soline, en particulier les actes illicites commis par les forces de l'ordre sur des instructions forcément venues des hautes sphères au vu du nombre de ces actes, de la décontraction montrée par les gendarmes qui les accomplissaient et des ordres que l'on entend des supérieurs leur donner dans les vidéos des caméras piétons.
Attention, ce qui va suivre est extrêmement choquant. Ordre de tir tendu interdit, filmé par des caméras piétons de gendarmes.
Sur le groupe, bien entendu. Vous attendez quoi, les gars? Tirez, bordel! Vous balancez un tendu, s'il faut!
Tendu!
Balancez, même entendu!
Ouais, entendu, j'ai M2L!
Allez, on baisse le bouquin, les gars! On baisse le bouquin, on est tout tendu, les gars!
Monsieur Théier a ainsi prétendu longtemps ne pas avoir eu connaissance de tirs tendus lors de cette manifestation. Des ministres ont minimisé le nombre de ces tirs. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a ainsi évoqué des gestes de violence qui pourraient ne pas être proportionnés. Non seulement les procureurs Astruc et Théier connaissaient l'existence de ces tirs, mais ils ont choisi de ne pas pousser les investigations à leur sujet, comme sur d'autres sujets gênants pour le gouvernement. L'attitude de messieurs Astruc et Théier illustre bien l'absence d'autonomie des procureurs de la République par rapport à l'exécutif. Le fait d'être placé sous l'autorité directe de la chancellerie rend ces procureurs assez frileux dès lors qu'ils veulent faire carrière. Soit ils cèdent à des pressions, soit ils tendent à s'auto-censurer. Nous ne laisserons pas le silence recouvrir les violences policières à Sainte-Soline. Nous sommes en train de déposer une nouvelle plainte collective avec constitution de partie civile pour que l'enquête soit relancée. Concernant l'enquête de l'IGGN, en juillet 2023, pour répondre à notre dépôt de plainte sur les violences policières et sur l'entrave à l'arrivée des secours, le procureur Astruc a choisi de confier l'enquête à l'IGGN, la police de la gendarmerie, dont les enquêteurs sont doublement dépendants par rapport à leur hiérarchie et par rapport à leurs collègues, plutôt que de nommer un juge d'instruction. Il a rendu la procédure et l'état d'avancement des investigations inaccessibles à notre avocate et à nous-mêmes. Ensuite, l'IGGN a retardé à plusieurs reprises la remise de son rapport sur ces investigations. Les conclusions du rapport de l'IGGN étaient à la fois partiales et lacunaires. Quelques jours à peine après la manifestation du 25 mars 2023, Libération le 2 avril, Le Monde le 6 avril, avait publié des enquêtes fouillées sur les tirs non réglementaires opérés par les gendarmes au LBD, lanceur de balles de défense, et au lance-grenades, Cougar. Le Monde avait déjà considéré que l'un de ces tirs, parti d'un blindé de la gendarmerie, avait très probablement atteint Serge. Ce journal avait aussi révélé qu'un autre manifestant avait été gravement blessé par un tir tendu au lance-grenades Cougar. Ces enquêtes de journalistes ont fourni aux experts missionnés par l'IGGN une masse de données importantes, en particulier sur le tir qui a atteint Serge. C'est pour une bonne part grâce à ces données que les experts ont établi précisément comment il avait été blessé, non seulement d'où était parti le tir, mais aussi quelles munitions et quelles armes avaient été utilisées. Mais à la lecture du rapport de l'IGGN, on constate que ces experts se sont efforcés d'atténuer la précision des informations recueillies. On peut par exemple y lire « Le projectile en cause est très certainement une grenade lacrymogène CM6 ou MP7 lancée par un lanceur Cougar. Les caractères de la zone d'impact, donc la boîte crânienne de Serge, suggèrent que la grenade aurait non réglementairement été tirée en tir tendu. Ce tir a été réalisé à un angle de 10 degrés et non des 45 degrés requis pour utiliser un lance-grenade Cougar. » Dans d'autres passages du rapport, le conditionnel et les contorsions stylistiques des experts disparaissent. Et on trouve par exemple un VBRG, c'est-à-dire un véhicule blindé à roues de la gendarmerie, est identifié sur vidéo comme étant à l'origine d'un tir tendu de grenade en direction de Serge. Comme la grenade avait atteint Serge à la tête sans dépoter, ce qu'elle aurait, paraît-il, fait si elle avait été lancée réglementairement, c'est-à-dire en cloche, il s'agissait d'un tir non conforme. Contrairement à ce qu'a déclaré M. Théier le 5 novembre 2025, après que Mediapart et Libération ont diffusé les vidéos des caméras piétons portées par les gendarmes, il avait bien été informé par l'IGGN de l'existence de tirs tendus. Un mois après, M. Théier a fini par le reconnaître. Si l'IGGN a juste mentionné l'existence de tirs non conformes, elle avait signalé au procureur Astruc le contenu problématique des vidéos. Les investigations permettent de constater qu'à la marge, certains gradés ont donné des instructions pour effectuer des tirs communément appelés tendus. Ni le procureur Astruc ni le procureur Théier n'ont demandé pour autant une nouvelle audition des hauts gradés qui avaient affirmé aux enquêteurs de l'IGGN l'absence de tirs tendus pendant la manifestation. C'est à la demande du procureur Théier que l'IGGN a auditionné le 17 février 2025 comme simple témoin et non comme suspect le gendarme appelé radio-tireur qui tirait depuis le blindé d'où est partie une grenade quelques secondes avant que Serge ne s'effondre. L'IGGN n'avait pas jugé bon de soumettre les déclarations de ce gendarme à l'expert en balistique afin qu'ils puissent examiner leur cohérence au regard des informations déjà collectées sur le tir qui a atteint Serge. Mais le procureur Théier n'a pas davantage cherché à avoir l'avis de cet expert. Et pourtant, les déclarations de ce radio-tireur méritent qu'on se penche dessus. Il a notamment dit « Je n'avais aucun repère, car c'était la première fois que je tirais au lance-grenade. » C'était aussi la première fois qu'il tirait depuis un blindé. Il a expliqué qu'un radio-tireur ne voit pas très bien, que c'était son supérieur qui lui donnait les consignes pour ajuster ses tirs en fonction de là où il voyait la grenade arriver. Il a reconnu qu'il n'était pas sûr d'avoir vérifié à chaque fois le degré de ses tirs. Tout le monde semblait satisfait des tirs que nous faisions. La lenteur de l'enquête a en tout cas sans doute permis que lui et d'autres gendarmes auditionnés se préparent une défense. Par exemple, le tireur du blindé a dit qu'il tirait surtout des grenades GM2L au moment où Serge avait été atteint par une grenade CM6 ou MP7. Il a également dit qu'il était alors en manque de DPR 200 mètres. Alors le DPR, c'est un dispositif de propulsion à retardement qui est fixé à une grenade et c'est un DPR 200 mètres qui a fracassé le crâne de Serge. Quoique le blindé ait été identifié comme étant le point de départ de la grenade qui a atteint Serge, son radio-tireur a suggéré que des gendarmes à pied postés près du blindé avaient pu toucher Serge, car il tirait également au lance-grenade Cougar. Dans son communiqué du 4 décembre dernier, le procureur Théier a reconnu l'existence de tirs non réglementaires pour Serge, Michael et Alix, mais il a ensuite invoqué un manque d'informations et la complexité de l'affaire pour clore l'enquête. Le syndicat de la magistrature a qualifié son raisonnement d'assez ahurissant, et c'est bien le cas. En tout cas, les décisions du procureur Théier répondent toujours au même objectif, empêcher que soient désignés les responsables de la répression policière à Sainte-Soline. Ce procureur a expliqué ne pas donner suite à notre plainte pour trois raisons. Première raison, parce que les blessures avaient été causées par un tir, selon lui, conforme. Là, il fait référence à la grenade GM2L qui a atteint Olivier au pied. Mais en réalité, la conformité de ce tir est très contestable. Cette GM2L est tombée au milieu des manifestants, contrairement aux conditions d'usage exigées pour cette grenade. La deuxième raison invoquée par le procureur pour ne pas donner suite à notre plainte, c'est que les tirs non conformes qui ont été faits contre Serge, Michael et Alix pourraient être justifiés par le contexte ultra-violent de la manifestation. Et pourtant, les gendarmes qui se sont filmés, qui ont choisi de se filmer, ils affichaient bien plus leur satisfaction de canarder les manifestants qu'un stress ou une peur provoquée par leur ultra-violence. Quant aux gendarmes qui se trouvaient dans le blindé stationné à 50 ou 60 mètres de Serge, on ne peut guère justifier ces tirs en invoquant la légitime défense. Dernière raison donnée par le procureur pour ne pas donner suite à notre plainte, c'est que les auteurs des tirs n'ont pas pu être identifiés. C'est faux, puisque, concernant Serge au moins, dans le blindé d'où est parti le tir qu'il a atteint, il y avait bien un tireur, et ce tireur tirait. Concernant le classement sans suite de notre plainte sur la non-assistance à personne en danger, le procureur Théier assure qu'il n'y a eu aucune entrave à l'arrivée des secours. D'après lui, tous les responsables du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, c'est le PC des pompiers, tous les responsables du SAMU qui ont été entendus par l'IGGN assurent que chacune des alertes a été prise en compte et que des équipes ont été dépêchées sur place dès que cela a été possible au regard de ce principe d'action et sans aucune obstruction des forces de l'ordre. Pourtant, nombre de manifestants, de médics et d'observateurs de la LDH témoignent du contraire. Et il y a un fort contraste, on va dire, entre le choix arrêté par le gouvernement de mobiliser des effectifs imposants, d'utiliser des armements dangereux contre les manifestants et manifestantes, et le dispositif de soins qui a été mis en place pour la manifestation. Par exemple, le point de rassemblement des victimes avait été établi à 12 ou 13 km de la manifestation. Les soignants avaient interdiction d'intervenir en urgence sans accompagnement et sans autorisation des forces de l'ordre. Les enquêteurs de l'IGGN eux-mêmes ont relevé que rien n'avait été prévu dans l'organisation des secours pour évacuer des victimes en urgence vitale. Tout en affirmant qu'il n'y avait pas eu de perte de chance pour Michael, Serge, Alix et Olivier malgré leur évacuation tardive, ces enquêteurs de l'IGGN ont signalé des dysfonctionnements dans l'organisation des secours. Par exemple, l'absence de réponse du BCD pompiers aux appels du SAMU. Et puis, il y a eu un temps inexplicable qui a été mis par des motards de la gendarmerie pour venir escorter l'ambulance qui devait évacuer Serge. Les enquêteurs de l'IGGN ont écrit que le retard de 20 minutes de ces motards peut faire penser à un obstacle à la mise en œuvre des secours. Ils ont noté que ces mêmes motards avaient abandonné l'ambulance en cours de route, ce qui a obligé ses occupants à passer outre l'interdiction de circuler sans escorte pour aller secourir une personne en urgence vitale. Mais les enquêteurs de l'IGGN ont conclu que leur mission n'était pas de se prononcer sur cette question. Enfin, concernant l'information judiciaire sur les tirs tendus, M. Théier a dit ouvrir cette information judiciaire devant un juge d'instruction en précisant que les tirs non réglementaires pourraient constituer l'infraction de violence volontaire, par exemple s'ils n'étaient pas justifiés par la légitime défense. Il n'a pas voulu retenir l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui au prétexte que, pour caractériser cette infraction, il faut enfreindre une règle de sécurité dûment établie par un règlement et qu'aucune règle n'aurait été enfreinte par les gendarmes de la Sainte-Soline. Mais là encore, c'est faux, car il existe, par exemple, concernant le lance-grenade Cougar, une instruction d'emploi qui date de 2017, destinée à la police et à la gendarmerie, et dans laquelle il est écrit que le tir tendu est strictement prohibé. Mais on comprend sans peine pourquoi M. Théier a choisi de retenir l'infraction de violence policière plutôt que la mise en danger d'autrui. L'infraction de violence volontaire implique à la fois que soient identifiées des victimes et que soit prouvée l'existence de violences commises volontairement. Or, si les gendarmes des vidéos se vantent ouvertement d'avoir dégommé X manifestants et manifestantes, s'il doit être facile de les identifier à partir de leurs caméras piétons, il n'est absolument pas certain que l'on puisse retrouver les personnes qui ont été victimes de leurs tirs à distance.
Allez les gars, tir de GM2A, l'objectif des manifestants.
Tiens, intervient la
bien joué. C'est bon ça.
J'ai cru que le mec allait jamais se relever.
Ah ouais, mais il a pris la...
Il a dû la prendre pleine gueule.
Ah, il a pris pleine tête, hein.
Un vrai kiff.
Une GENL dans les couilles, ça fait dégager du monde, hein.
Bah, on va les manger, hein.
Bah oui, faut qu'on les tue.
T'en crèves 2-3, ça calme.
Ouais.
En conclusion, face aux insuffisances de l'enquête menée par l'IGGN et face aux décisions prises par le procureur, notre collectif dépose une nouvelle plainte avec constitution de partie civile, car cette procédure déclenche automatiquement la désignation d'un juge d'instruction qui reprendra totalement l'enquête sur le 25 mars 2023. Nous avons fait ce choix tout en sachant que, pour la justice pénale, les responsables d'infractions sont forcément des individus, pas des institutions ou encore la hiérarchie de l'armée, alors que les responsables des violences policières à Sainte-Soline se situent largement au-dessus de tireurs qui ne voyaient pas très bien, ou même de supérieurs qui, sur le terrain, leur indiquaient des manifestants et manifestantes comme cibles. Les déclarations du gendarme qui tirait depuis un déblindé montrent, comme les vidéos des caméras piétons, que les tirs non réglementaires n'ont pas juste été des bavures de simples gendarmes. Les déclarations des hauts gradés qui ont nié ces tirs le montrent également. Ou encore l'annonce par M. Nunez qu'il chargeait l'IGGN d'une enquête administrative sur ces tirs. Quelques brebis galeuses identifiées à partir des vidéos seront peut-être un jour poursuivies en justice pour leur mauvais comportement. En revanche, il est peu probable que soit jamais inquiété le général de division Samuel Dubuis, le chef du commandement à Sainte-Soline. Il est devenu en novembre 2024 inspecteur général des armées pour la gendarmerie sur proposition d'un ministre des armées qui s'appelait alors Sébastien Lecornu. Les violences policières pour défendre un trou vide à Sainte-Soline sont une violence de l'État. Elles ont été ordonnées, couvertes par ses responsables. Elles font partie de la panoplie répressive dont l'État dispose pour défendre l'ordre établi quand celui-ci est contesté. Les forces de l'ordre frappent de plus en plus lourdement en France ces dernières années les mobilisations sociales ou environnementales. Ordonner ou inciter à tirer à hauteur de tête sur des manifestants, des manifestantes, comme empêcher la prise en charge des blessés, traduit une intention de blesser gravement, sinon de tuer. Notre nouvelle plainte collective vise donc à obtenir des réponses à nos questions, mais aussi à dénoncer une fois de plus les violences policières, les nombreuses infractions commises par les forces de l'ordre et à affirmer un refus de se laisser tétaniser par la terreur.
Question. J'étais aux deux Sainte-Céline, aux deux manifs. La dernière, j'étais assis à côté de Benoît Biteau. On a eu tout le loisir d'observer les gendarmes qui passaient avec des quads. Leur comportement ressemble plus à ceux des kékés qui font des rodéos dans les cités que à des agents de maintien de l'ordre. Ils passaient à deux, un qui pilotait à fond la caisse et l'autre derrière avec un fusil, vraisemblablement lance-grenade. Ils passaient à 15 mètres de nous, ils nous visaient. Il y a 50 ans, j'ai fait un mois de service militaire avant d'être formé. J'ai fait deux exercices de tir. Le sous-officier qui nous encadrait a largement insisté sur le fait que, en temps de paix, il est absolument interdit à tout militaire de viser quelqu'un avec une arme, quelle qu'elle soit chargée à balles réelles, à blanc ou autre. Et que celui qui faisait ça, qui visait délibérément quelqu'un, eh bien, était passible de la cour martiale. C'est tout.
Peut-être qu'on passe à l'AIH maintenant. Effectivement, nous, on va essayer de revenir un peu sur les faits qui ont été observés sur le terrain. Plusieurs observatoires créés à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme étaient présents à Sainte-Soline pour documenter les faits. 18 observatrices et observateurs, et on a pu recueillir de nombreuses heures d'observation qui nous ont permis, comme il a été dit, de rédiger et de publier un rapport qui est disponible en ligne, qui s'intitule « Empêcher l'accès à la bassine, quel qu'en soit le coût humain ». Évidemment, on met en avant de nombreuses violations des droits et des libertés fondamentales, mais on va se concentrer aujourd'hui sur effectivement la question de l'entrave au secours. L'État a l'obligation de porter secours à des personnes blessées. Ça a été rappelé au niveau européen par la Cour européenne des droits de l'homme, en droit international humanitaire, y compris en cas de conflit armé, l'État a toujours l'obligation de porter secours aux personnes blessées. Les conventions de Genève rappellent également que les personnels de santé doivent pouvoir circuler librement, y compris en cas de conflit armé, pour pouvoir porter secours à des personnes blessées. En droit pénal, le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destiné à faire échapper une personne à un péril imminent, c'est un délit puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. On a également les instructions à destination des forces de l'ordre qui concernent l'usage des grenades explosives ou l'usage des LBD qui rappellent toujours qu'après des tirs, les forces de l'ordre doivent en principe s'assurer de l'état de santé de là ou des personnes qui ont été touchées par des tirs. Donc si vous voulez, on a quand même cet ensemble de dispositions légales en France et en droit international. Les autorités publiques sont toujours responsables de l'accès au secours pour des personnes blessées. À Sainte-Soline, on a vu évidemment que c'était pas le cas et que ça avait posé problème. On rappellera d'ailleurs que selon le ministre de l'Intérieur, en amont de l'événement, il fallait s'attendre à des affrontements extrêmement violents. Rien que par cette phrase, les pouvoirs publics auraient dû s'assurer que un dispositif efficace et adéquate d'accès aux soins puisse être mis en place, puisque précisément le ministre lui-même nous disait « on va assister à des choses très violentes ». Donc les pouvoirs publics auraient dû anticiper les choses et mettre en place un dispositif efficace d'accès aux soins. On a eu ensuite des autorités de l'État qui nous ont indiqué que ça avait été difficile de mettre en place un dispositif efficace d'accès aux soins, notamment en raison de l'absence de contact avec les organisateurs du rassemblement. On sait qu'il y a eu en réalité des contacts, au moins avec la Confédération paysanne. Et quand bien même, encore une fois, il n'y aurait pas eu de contact, il incombe pas aux organisateurs de s'assurer de l'existence d'un dispositif d'accès aux soins. C'est l'obligation de l'État. Maintenant, Garance va revenir sur un peu le déroulé des faits, l'absence de prise en charge des blessés à Sainte-Soline.
Là, moi, je vais un peu vous expliquer le cas de Sainte-Soline et en fait, qu'est-ce qu'il y a eu sur place, sur le terrain, qui nous ont amené à dire, en fait, il y a des indices qui montrent qu'il y a une entrave au secours. Et pour ça, en fait, je vais parler du cas de Serge, le blessé le plus grave, du coup, durant la manifestation du 25 mars 2023. Sa blessure, elle intervient aux environs de 13h45. Il y a eu des médics, des manifestants bénévoles qui, du coup, ont fait les premiers soins. Il y a des appels qui sont passés, plusieurs appels. Notre équipe d'observation, elle assiste à un appel, aux alentours de 14h50. Le régulateur, du coup, en face, explique qu'ils n'enverront pas d'ambulance parce qu'il y a un risque pour les équipes médicales. Les secours ne peuvent pas intervenir, ne peuvent pas prendre la décision parce que c'est sous appréciation des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre doivent apprécier si la zone est sécurisée ou non et c'est une fois cette appréciation faite que les secours pourront parvenir jusqu'à Serge, même s'il est bien précisé du coup dans ces deux appels que se blesser dans un état très très grave et qu'il faut absolument qu'une ambulance le prenne en charge. On a du coup cette idée de mise en danger des équipes de secours. Nous, ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'entre 14h08 et 15h08, c'est totalement calme. Il n'y a plus aucun tir, il n'y a plus aucun affrontement. Serge, en fait, là où il attend les secours, c'est une zone qui est du coup à environ 200 mètres de la mégabassine, un peu éloignée du coup de la zone où il y avait des affrontements. Et de toute façon, c'est calme. La question du coup de la mise en danger, elle n'est pas comprise sur le moment par les personnes qui sont autour de Serge et qui du coup ne font qu'appeler les secours, attendre, attendre, attendre. Donc on a une blessure à 13h45, plein d'appels qui sont passés, et donc on a une ambulance du SMUR qui prend enfin en charge Serge à 15h05. On a eu quelques minutes avant, à 14h56, deux médecins de la gendarmerie qui sont du coup venus faire des premiers soins à Serge, et ces médecins ils sont venus parce qu'en fait les manifestants ne faisaient qu'appeler et que personne ne venait. Donc les manifestants sont allés chercher ces médecins qui sont ensuite venus pour prodiguer des premiers soins. Donc 14h56, les médecins militaires, ensuite 15h05, l'ambulance qui du coup commence une prise en charge. Donc 15h05, elle arrive avant que cette ambulance du SMUR arrive et ne le prenne en charge. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a un véhicule du SDIS arrêté à 1 km de la mégabassine, sur la même route où du coup Serge attend. Et cette ambulance du SDIS, elle est arrêtée, et devant elle, il y a deux motocyclistes de la gendarmerie. Et cette ambulance n'avance pas. Le véhicule du SMUR, à 15h05, quand il arrive vers Serge, donc il dépasse cette ambulance sur la même route, ce véhicule du SDIS n'avance qu'à 15h15. L'équipe d'observation a des échanges du coup avec les pompiers du coup de ce véhicule du SDIS qui confirme qu'ils ne pouvaient pas avancer tant qu'ils n'avaient pas un feu vert. Il y avait la mégabassine, à peu près à 200 mètres, Serge, et ensuite à plusieurs centaines de mètres, un véhicule du SDIS à l'arrêt avec deux motocyclistes qui n'ont avancé qu'après qu'un ordre soit donné. Serge, il est blessé à 13h45, l'ambulance elle arrive à 15h05. Dès 14h01, l'ambulance du SMUR de Ruffec, en fait, elle s'engage pour venir chercher Serge. Les personnes qui sont autour de Serge ne sont pas au courant. Donc cette ambulance du SMUR de Ruffec, elle part à 14h01. Elle ne va pas directement à Sainte-Soline. Elle va d'abord vers Clucey-la-Pommeraye, le point de rassemblement des victimes, par lequel elle est obligée de passer. Elle doit attendre 20 minutes qu'on lui dédie une escorte de la gendarmerie pour ensuite enfin partir vers la mégabassine pour pouvoir prendre en charge ce blessé. Et l'ambulance du SMUR de Ruffec, c'est la première ambulance qui prend en charge un blessé, alors qu'il y a du coup, selon les organisateurs, environ 200 blessés, dont 40 graves à peu près. Donc ça, c'est le cas de Serge. C'est pas un cas isolé. Même dans les autres blessés les plus graves, il y a une longueur dans leur prise en charge qui est vraiment anormale. Et on a même du coup le cas de Michael, où le temps d'attente est tellement long que ce sont des manifestants qui doivent l'amener eux-mêmes à l'hôpital. La première ambulance qui atteint enfin un blessé, c'est parce qu'elle n'a pas respecté le protocole en fait, qui a été mis en place. Là, les extraits qu'on a des conclusions de l'enquête, restent toujours beaucoup de zones d'ombre, beaucoup d'aléas aussi qui ne sont pas pris en compte, parce qu'on parle du fait qu'il n'y a pas eu de perte de chance pour les blessés. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas des personnes sur place qui ont prodigué des premiers soins? S'il n'y avait pas eu auprès de Serge une personne qui, dans la vraie vie, est médecin urgentiste, qu'est-ce qui se serait passé? Comment on peut laisser des personnes dans des états aussi graves attendre aussi longtemps les secours? On a quand même une personne qui, d'après les témoignages, avait la mâchoire explosée, qui a attendu pendant des heures qu'une ambulance vienne bien la prendre en charge. Ces questions-là, elles ne semblent pas être abordées par le rapport d'enquête. Nous, on pense que ça montre juste qu'il faut enfin une enquête indépendante, que l'enquête de l'IGGN n'est pas suffisante, qu'on a encore beaucoup de questions là-dessus.
Est-ce que les témoignages éventuels sont intéressants, encore pertinents à voir aujourd'hui?
Je pense que c'est important qu'il faut évidemment témoigner et pas laisser le silence s'installer là-dessus, quoi. Sinon, c'est complètement faire le jeu du pouvoir, en fait. Il y a 73 blessés au moins qui ont saisi la défenseure des droits. Elle mène son enquête et elle doit la rendre dans les 6 mois, normalement en février ou je ne sais pas quand.
Juste après Sainte-Soline, il y a eu une adresse mail qui a été ouverte, c'est témoignage Sainte-Soline. Et à partir de là, nous avons été plusieurs et au départ, 70 personnes témoins. Il y a eu une saisine de la défenseuse des droits qui elle-même s'était déjà bien avant saisie des violences policières par les... ce qui avait pu se passer en banlieue il y a longtemps, ce qui avait pu se passer aussi avec les Gilets jaunes. Donc la défenseuse des droits a déjà un dossier très fort sur les violences policières. Elle s'est auto-saisie également des violences policières de Sainte-Soline. Et nous l'avons, de notre propre chef, saisie aussi sur cette question. Il est toujours possible de porter vos témoignages. Il y a toujours, cette adresse existe toujours, témoignage Sainte-Soline. Bon, il faut savoir qu'il y a des personnes qui étaient à Sainte-Soline, qui ont été impactées bien sûr, et qui n'ont aujourd'hui pas encore pu poser les mots.
Question pour les amis de la LDA, je voulais... À la publication du rapport, vous avez dit, et c'était peut-être pas les bons mots, mais qu'il n'avait pas été contesté. C'est un document à charge contre l'État et contre les mensonges du ministre de l'Intérieur de l'époque.
Pour expliquer le rapport, nous, on l'a vu comme un outil, en fait. On a fait des observations, on a fait un certain nombre d'analyses de ces observations qu'on donne au public, et donc après, c'est au public de s'en saisir. Il était assez à charge parce que, donc, comme je disais, on avait quand même un certain nombre de questions et de constats sur place sur la nécessité de la force, la proportionnalité de la force, la prise en charge des blessés, mais aussi, par exemple, les quads tirent en roulant au LBD. Ils tirent en fait sur une chaîne d'élus et de manifestants qui protègent des blessés. Ils tirent sur toutes ces personnes-là et sur des blessés. Il y a beaucoup de points auxquels, du coup, les autorités n'ont pas vraiment répondu, en fait.
Le rapport, il n'a pas été attaqué. C'est-à-dire, s'il y avait eu de la diffamation, je pense qu'il y aurait eu une plainte pour diffamation. Donc, il n'y a eu aucune plainte. Donc, on peut considérer que ce qui est dedans est assez juste. En tout cas, suffisamment juste pour pas qu'il y ait de plainte. Par contre, la LDH a été très attaquée après. Le message ne peut pas être attaqué. Du coup, c'est le messager qui prend, quoi.
On a notamment été attaqué par Gérald Darmanin et Elisabeth Borne à l'époque. Donc Gérald Darmanin qui avait menacé de couper les subventions à la Ligue des droits de l'homme et Elisabeth Borne qui avait renchéri en indiquant qu'elle ne reconnaissait plus la Ligue des droits de l'homme et qu'on était passé du mauvais côté. C'est vrai que sur le rapport en tant que tel, ça reste assez solide, il me semble, toutes les constatations qui ont été faites.
Ce rapport de la LDH, s'il n'était pas là, on ne serait pas à discuter là. Les plaintes auraient été classées sans suite depuis bien longtemps. Que c'est parce qu'il y a ce rapport et que c'est parce que vous êtes venus très très nombreuses... en observatrice, qu'il y a ces données et qu'elles sont incontestables. Et il n'y a pas de réponse de l'État à ça, parce qu'en fait, répondre à ça, ça voudrait dire admettre qu'il y a des violences policières. Et comme ils ne veulent pas le dire, bah, voilà, ils font un peu les autruches, quoi. Je pense qu'on peut dire ça.
Merci pour le travail.
Est-ce que quelqu'un ici peut faire le point sur la défenseuse des droits?
Ce que j'ai compris de la défenseur des droits, c'est que c'est une personne qui est désignée par le président de la République, c'est ça ?
Président de la République,
ouais. Qui est indépendante, mais dont les décisions ne sont pas contraignantes, et qui va produire un rapport au premier semestre 2026. On attend avec impatience, même si on sait bien qu'il ne va pas produire de contraintes particulières, quoi.
Par rapport au quad et au tir LBD, moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait une enquête administrative interne, l'IGGN qui mène son enquête. Ce que ça peut donner, c'est des blâmes, des machins, tout ça, en interne. C'est la maison gendarmerie ou police qui règle ses affaires elle-même, quoi. Voilà.
Je crois me souvenir que par rapport à l'histoire des quads, à l'enquête administrative qui avait été déclarée, ça a conclu à la légitime défense.
Julien Leguet, l'un des porte-parole de Bassine Non Merci.
Si on reprend bien le rapport de la LDH qui crée les premiers affrontements, les premières tensions, c'est bien cette équipe de quad qui vient à 1,5 km attaquer un cortège qui n'a commis aucune violence au niveau du bois d'Anières. Je pense qu'il y a vraiment un travail spécifique à mener vis-à-vis de cette brigade spéciale, les Bravem des campagnes. On a eu vent qu'au sein de la gendarmerie en tant que telle, le fait qu'il y ait cette intervention et cette brigade qui soit créée, ça passait pas très très bien. Là, on a vraiment affaire à des individus qui vont être facilement identifiables. 40 individus sur 20 quads. Ce qu'on a vécu à Sainte-Soline le 25 mars, c'est du ressort du terrorisme d'État. La définition du terrorisme, c'est quand on applique une politique visant à créer la terreur chez les cibles. On fera un petit état de ce qui est en cours. On a parlé de la plainte auprès de la défenseur des droits, de cette nouvelle plainte où les victimes vont pouvoir se faire porter partie civile avec un juge d'instruction dont on peut avoir le secret d'espoir qu'il soit plus indépendant qu'un procureur. On connaît les liens intimes entre le garde des Sceaux et un procureur. Darmanin, c'est pas Voldemort, hein. On peut dire son nom. Le fait que un de ceux qui a participé très activement à la chaîne de commandement soit aujourd'hui garde des Sceaux, évidemment, que ça pose des questions très profondes et qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à espérer de ce gouvernement-là, à cette étape-là. Mais j'espère que dans nos réflexions, on sera aussi axé sur cet angle-là. L'affront, il sera lavé, et puis on pourra se dire que notre démocratie, elle est à nouveau sur les bons rails. Le jour où il y aura de véritables investigations qui seront menées pour que les responsables, ceux qui ont, près des salons de l'Élysée, à Beauvau, etc., établissent ces plans-là. Il faut être très très clair, et là-dessus, je vous invite à réécouter l'intervention de Darmanin devant une commission au Sénat, juste après Sainte-Soline, c'est là où il vient attaquer la LDH, bille en tête, etc. Et il parle très précisément des 2-3 réunions qu'il y a eu en amont de Sainte-Soline. C'est à cet endroit-là que les choix sont faits. C'est de donner de tels moyens armés, 9 hélicoptères, 4 blindés, des canons lanceurs d'eau, plus de 5000 bombes. Il est là, le premier choix coupable, parce que retournons sur les déclarations de Darmanin, à cette même commission d'enquête au Sénat, il met sur un pied d'égalité la protection des biens et la protection des personnes. Mais ça, c'est coupable. Si aujourd'hui, c'est ça le logiciel du maintien de l'ordre à la française, et si on est capable de mettre en péril la vie d'individus qui luttent simplement pour l'eau, pour un simple cratère, à Sainte-Soline, il n'y avait même pas de dégradation à commettre. La bassine, elle n'était pas bâchée. Les machines, elles avaient été enlevées. Donc même ce prétexte de protection des biens ne tient pas. Moi, ce que j'espère, et puis ça fait du bien de voir qu'on est encore aussi nombreux à s'intéresser à ça, et puis que l'affaire, elle est loin d'être finie, en fait, c'est qu'on ne lâche pas l'affaire. Jusqu'à ce que les responsables soient punis, passent devant les institutions, et les responsables, on les connaît, et je vais redire leur nom, Gérald Darmanin, Elisabeth Borne, M. Macron, M. Dupuis, M. Vestiaux, numéro 1 de la gendarmerie, bah, tant que ceux-là ne seront pas comparus devant la justice, eh bien la lutte continuera. Ça, c'est l'argumentaire de Darmanin, de dire qu'il voulait empêcher l'installation d'une ZAD. Et je le redis ici haut et fort, il n'a jamais été question d'installer une ZAD dans un cratère au milieu de la plaine et des pesticides.
Du coup, on a parlé des quads et de l'enquête administrative là, de l'IGGN. On a toute une annexe dans le rapport qui démonte point par point cette enquête de l'IGGN, qui du coup conclut à la légitime défense de ce qui est écrit dans ce rapport d'enquête de l'IGGN. Dans les images qu'on a, on ne le constate pas du tout, notamment l'enquête, elle parle d'une NAS, elle parle de cocktails Molotov qui sont lancés, je crois aussi de tirs de mortier. Ce n'est pas du tout ce qui se passe au moment où il y a les tirs de LBD. Le rapport, bon, il fait 164 pages, il fait un peu peur. Une partie qui est intéressante, c'est qu'on a fait le déroulement quasiment minute par minute de ce que c'était Sainte-Soline. Ça vous donnera un peu une idée de ce que c'était Sainte-Soline si vous n'y étiez pas.
Les deux blessés graves qui se sont retrouvés dans le coma après Sainte-Soline sont donc Serge et Mika, qui prend maintenant la parole au cours de cette réunion du 10 janvier 2026 à Poitiers.
Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Boulet. J'ai été rescapé de Sainte-Soline 2023. 2 ans après, eh ben, ça va mieux, juste des petits troubles de mémoire. J'ai 37 ans, j'ai un petit garçon de 14 ans. Ça lui est arrivé, il avait 12 ans. C'était un peu très dur. Ça m'a coûté 10 jours de coma, une artère de boucher et 6 mois de rééducation. Les violences policières, il y en a toujours eu, surtout là à Sainte-Soline. Moi, en tant que militant Gilets jaunes, pour moi, je sais que j'ai pris un flashball, même si l'État dit le contraire, car j'ai beaucoup vu les manifestations. Je suis rentré plusieurs fois chez moi blessé, mais je suis toujours rentré chez moi. Je suis parti à Sainte-Soline pour l'écologie. Je me suis fait taper gratuitement. J'étais avec des gens de la Confédération paysanne. Je regrette rien parce que j'ai rencontré des bonnes personnes. Et ma vie, bah, elle a changé parce que bah, il s'est arrivé tout ça en 2 ans. Et je dénonce les violences policières et que ça continue. Merci à vous.
Question toute simple, c'est le rôle et la toute-puissance des préfets, et notamment la préfète des Deux-Sèvres, qui avait donné des consignes extrêmement claires pour que les véhicules de secours ne puissent pas accéder facilement, puisqu'il fallait qu'ils aient l'autorisation pour pouvoir aller sur la zone où il y avait les personnes blessées. Ça continue toujours, puisqu'en Vienne, on se bagarre aussi contre les bassines, et on voit que la toute-puissance préfectorale continue son travail. Ils arrivent à mettre à genoux à peu près toutes les oppositions. Donc c'est quelque chose qui m'interroge aussi. Les préfets sont-ils au-dessus des lois ?
Ben moi, j'ai fait 6 ans de militant Gilets jaunes, et pour moi, je dis oui, les préfets sont au-dessus des lois. Parce que si on aurait toutes les caméras piétons des violences policières qu'il y a eu dans les manifs Gilets jaunes, eh ben vous verrez que la police, c'est comme un crime de guerre. Merci.
Moi, j'avais demandé à une avocate un jour, j'ai dit, je comprends pas, le préfet, il arrête pas de prendre des décisions pas légales. On peut pas, à un moment donné, comme quand c'est un policier véreux, l'attaquer et qu'il soit plus préfet, quoi. Et elle s'est démarrée, elle m'avait dit, ah non, le préfet, on peut que attaquer ses décisions, on peut pas attaquer sa personne.
Oui, c'est vrai qu'en maintien de l'ordre, il y a quand même toujours cette question de la place du préfet, notamment pour un autre angle, en amont des rassemblements, c'est aussi toute la question des arrêtés, d'interdiction de manifester, de plus en plus nombreux, on en a vu énormément quand il y a des rassemblements écologiques, on l'a vu énormément pendant les manifestations contre la réforme des retraites en 2023, contre les mouvements de soutien à la Palestine. On a aujourd'hui toute cette compilation d'arrêtés, d'interdictions de manifester. Alors on peut les attaquer, alors on les attaque, on peut parfois obtenir la suspension de l'arrêté. Il y a plein d'associations comme la LDH qui essaient d'attaquer. Il y a cette question aussi des arrêtés d'interdiction qui montrent un peu le pouvoir du corps préfectoral sur le droit de manifester en France.
Moi, il y a un truc qui m'a interpellée quand on est allé à Sainte-Soline, c'est qu'on avait participé à un covoiturage au départ d'Auchan Sud pour aller jusqu'à Sainte-Soline. On était, je ne sais pas, une dizaine de voitures. On a été escorté jusqu'au bout par la police, alors que c'était une manifestation interdite. Comment ça se fait que la police faisait dégager les carrefours et nous a accompagnés jusque là-bas pour nous taper dessus?
Bah, madame, vous avez raison, c'est exactement ça. Moi, je suis arrivé avec plusieurs amis à Sainte-Soline. Je suis l'un des derniers arrivés sur le site et je suis l'un des premiers touchés. J'ai 2 infirmières libérales que je remercie, Perle et Daphné, qui m'ont sauvé sur place. Et je remercie Joël, que j'ai rencontré grâce à Autopsie d'un carnage qu'on a inauguré en février 2024. Et merci à vous.
À propos du pouvoir des préfets, qu'on pourrait appeler, sans se gêner, un abus de pouvoir, par exemple, lors de la comparution des 4 au palais de justice de Poitiers en appel, le préfet avait interdit le rassemblement entre les grilles du palais et le bâtiment, et qu'il a fallu faire un référé liberté, et nous avons obtenu gain de cause, et le préfet a été condamné, débouté de sa décision. Un référé liberté, ça s'instruit, ça se mène rapidement et ça peut se gagner. Voilà.
Oui, Poitiers-Palestine, la répression devient quasiment une généralité.
On a eu, concernant la Palestine, des emprisonnements, des gardes à vue. Il y a des gens qui sont véritablement emprisonniers, comme le représentant d'Urgence Palestine à Lyon. Il y a eu des procédures bâillons, dont celle qui attaque Poitiers-Palestine ici, hein, puisque la présidente a été mise en examen pour apologie du terrorisme. On est également avec des interdictions de manifester, de plus en plus nombreuses. On a une avalanche législative, hein, dont le dernier état est effectivement la loi Hayon, là, qui envisage de pénaliser la simple évocation de l'antisionisme, et de très nombreuses sanctions financières. Poitiers-Palestine, par exemple, s'est vu contrôler ses comptes à la demande de la mairie de Poitiers. Et rappeler que si on est là, c'est que le combat pour la vérité, les libertés d'opinion et d'expression, ça doit être partagé par tous, au risque d'entrer dans une ère de despotisme et de terreur. Je vous remercie.
Jean-Pierre Duteuil, militant et père de Serge, prend le micro.
Il ne faudrait pas qu'on vive cette affaire de Sainte-Soline comme un cas particulier ou comme une bavure. Pour moi, porter plainte, c'est saisir l'occasion de parler de beaucoup d'endroits où la répression se fait quotidienne. C'est la répression qu'il y a eu les dernières années dans les banlieues. Et les gens qui sont morts, je pense à Rémi Fraisse aussi, dans une lutte écologiste, enfin, je pense aussi à Pierre Douillard, qui a perdu un œil, et puis à Adama Traoré, à Naël, etc. Et toutes ces luttes dans les banlieues, ou sur la loi travail, contre la loi travail, ou sur des objectifs de grands travaux, elles éclairent complètement le fait que ce qui s'est passé à Sainte-Soline n'est pas un particulier, c'est quelque chose d'endémique. Et donc, il ne faut pas se fixer sur la culpabilité ou telle, il faut montrer où est la chaîne de commandement. Mais c'est bel et bien un système que l'on combat. Et moi, si je porte plainte par rapport à Serge, c'est pour combattre un système. Et un système, c'est un système capitaliste. Il ne faut pas le cacher. Je voulais dire aussi que ce n'est pas quelque chose de particulier à la période. Les violences policières, quand j'étais tout petit, il y avait la répression des grèves en 1947, ça a fait 10 morts. Sous l'égide de dirigeants qui étaient de couleurs différentes. Des socialistes au pouvoir en 1947, qui ont fait tirer sur les ouvriers. On a eu les violences pendant la guerre d'Algérie, mai 68 évidemment. Et puis on a eu les ministres Pasqua Tandreau, qui n'était pas tellement mieux que Darmanin. Il y a eu l'épisode Maltikoutsékine, pour en citer que quelques-uns. Et puis surtout après, les violences contre les colonisés, entre guillemets. Ben, UVA, c'était quand même Mitterrand qui était au pouvoir. Ça ne dépend pas de la couleur. C'est quelque chose d'endémique, ces violences policières, qui se font régulièrement, non pas effectivement pour défendre un trou vide, mais pour dissuader les gens de manifester. C'est vraiment du terrorisme, en sens, restez couchés, ne vous révoltez pas. Et donc, il faut sortir de cette idée de bavure. Ce ne sont pas des bavures. Ce sont des actes complètement conscients qui sont dans une stratégie de domination d'une classe sociale sur une autre. Les victimes, il faut qu'elles cessent d'être victimes, ce n'est pas seulement des victimes. Tous les gens qui sont tués, blessés, mutilés, cessent justement d'être des victimes quand ils se révoltent. Surtout cesser d'être des victimes et ne pas fournir ce prétexte de la victimisation. On est en lutte contre les bassines, mais on est en lutte contre ce monde.
Julien Leguet de Bassines Non Merci reprend la parole.
Le point sur les bassines. Malheureusement, ce qu'on notait et dont on avait pris conscience déjà un petit peu en amont de Sainte-Soline, que de faire des méga-bassines, c'était pas qu'une intention pour le Poitou-Charentes. Malheureusement, ça se vérifie aujourd'hui. Nous avons écho de projets qui avancent sur d'autres territoires. Sur le Berry, c'est très sérieux. Il y a un projet de 8 méga-bassines. On ressemble beaucoup aux bassines de chez nous pour le même type d'agriculture. Il y a également des bassines qui pointent à l'horizon dans le Gard et l'Hérault, avec notamment un truc un peu insolite et hautement débile en termes agronomiques, puisqu'il s'agirait d'irriguer de la vigne.
Alors s'il y a bien une plante qui est faite pour vivre en milieu méditerranéen, en fait quand on irrigue de la vigne, on la rend dépendante de l'eau. Au lieu que la vigne aille en profondeur faire son système racinaire et chercher l'eau là où elle est, eh bien on la rend fragile, puisque dès lors qu'on arrête de l'arroser, ben elle crève. Il y a également des méga-bassines d'un autre genre. Les JO d'hiver vont commencer en Italie pour pouvoir procéder à l'enneigement artificiel. Les autorités ont recours à la multiplication des méga-bassines des neiges. C'est la même en France pour l'échéance 2030. Et donc, il y a des camarades qui sont également en lutte contre ce type de projet à la montagne. Et puis également, j'ai envie de citer ici les méga-bassines qui sont liées au méga-canal, au projet de méga-canal Seine-Nord, où à la fois, ils veulent construire une méga-bassine de 20 fois la contenance de Sainte-Soline pour mettre de l'eau dans ce canal dont, soyons très clairs, l'objectif n'est certainement pas de diminuer le transport routier, mais bien de fluidifier les échanges internationaux et notamment de squeezer le port du Havre où, au malheur, il y a des cégétistes qui parfois vont bloquer des choses alors qu'au niveau des ports du Nord et de la Hollande, ben, c'est beaucoup plus fluide. Et là, très clairement, un des objectifs avérés, c'est de permettre un exutoire direct, en plus avec l'ouverture des voies du Nord, avec l'Arctique qui font des débouchés à l'international, la Chine, etc. Des débouchés notamment pour les cultures céréalières de la Beauce. La Seine est bien connectée à ces grands ports, et là il s'agit de faire passer des méga-tankers en fait, sur ces ouvrages-là. Donc le cancer bassine n'est pas soigné. On peut quand même dresser un constat, c'est que ce rapport de force qu'on a été capable de mettre collectivement sur la bassine de Sainte-Soline, elle a quand même eu un effet, en tout cas sur notre territoire, c'est que ce moratoire qu'on réclame depuis 3 ans, ben de fait, il est en place. Aucune nouvelle méga-bassine n'a démarré dans les Deux-Sèvres. En 2017, les ministres de l'Agriculture et tous ceux qui sont succédés imaginaient pouvoir construire 1000 méga-bassines sur une échéance de 5 ans. On a un Premier ministre, Le Cornu, qui ces derniers jours également a fait des déclarations en réponse à la colère agricole autour d'un triplement du fonds hydraulique dédié à la construction de méga-bassines. Et donc il y a un fonds de 60 millions d'euros. L'essentiel des la cinquantaine de projets qui est sur la table, c'est des créations, alors ils disent stockage d'eau à vocation agricole, de l'eau, pas pour l'agriculture locale, ni pour relocaliser et les emplois agricoles et faire du revenu, mais bien pour l'agro-industrie et les marchés internationaux. Donc évidemment, on en appelle plus que jamais à rester motivé, à rester mobilisé. Tout à l'heure, quand je parle de terrorisme d'État, c'est tout un attirail dont la vocation a à nous faire taire, à nous rendre impuissants face aux événements. Et ça commence par de simples amendes, parce que vous avez stationné à proximité d'un endroit où il y aura une manifestation interdite. Ça va jusqu'à ce qu'on a vécu à Sainte-Soline. Des hauts dirigeants qui sont capables de donner des ordres mortifères, des ordres qui vont aller dans le sens de la mort. Ce serait illusoire de penser que ce qu'on a vécu là est un cas à part. Il y a une vraie tradition française d'un maintien de l'ordre qui peuvent aller dans le sens d'une très grande violence. Et je voulais ici faire état peut-être d'un des premiers morts de la cause écologique, qui est Vidal Michalon, qui dans les années 70 a été tué à Cresmalville, où une méga mobilisation similaire à celle qu'on a vécue à Sainte-Soline s'est mise en place. En fait, on va retrouver les mêmes éléments qui font système, avec un préfet qui annonce quelques jours avant que les Boches débarquent, parce que les militants anti-nuque rejoignaient, comme on a eu la chance à Sainte-Soline, d'avoir le soutien de camarades allemands, italiens, espagnols et même de partout dans le monde. Je mets en regard cette annonce qui a vocation à terrifier les habitants du territoire avec le fameux éco-terroriste dont Gérald Darmanin était le grand promoteur. À Cresmalville, prise au piège dans un fond de vallée avec des gens qui se retrouvent sous une pluie de bombes et donc ont généré la mort de Vidal. La mort de Vidal Michalon a eu un effet terrible dans les mouvements antinucléaires français. Et certainement que si le mouvement antinucléaire français en est là où il est aujourd'hui, c'est-à-dire pas très puissant, hein, quand on voit les camarades qui luttent à Bure, ben on n'est pas très nombreux, et même, j'en suis pas, à leur prêter main forte, dans leur fin fond là, de l'Est, etc. Ben moi je pense qu'un Darmanin et ses collègues, quand ils mettent en place les consignes pour Sainte-Soline, ils ont Cresmalville en tête. Ils sont dans une stratégie où on va créer un effet de blast tel que plus personne n'aura envie d'aller manifester dans les plaines des Deux-Sèvres, ou du Poitou-Charentes ou ailleurs. Nous avons collectivement fait corps Et nous avons donné la plus belle réponse qui soit. C'est à travers toutes ces solidarités qui se sont mises en branle. Et on a la chance ici d'être peut-être entre blancs éduqués, je vais le dire comme ça, et donc on fait corps. Malheureusement, il n'y a pas la même solidarité, la même organisation dans les quartiers, et il y a des violences bien supérieures qui sont vécues, il y a des morts dans les quartiers, et on n'est pas à leur côté. Pas assez. L'Alliance, elle n'y est toujours pas. Néanmoins, on peut voir à travers ce qu'a été la suite de la lutte sur les méga-bassines que non, cette stratégie de la terreur et de nous écrabouiller, elle n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on a imaginé collectivement ? Ce truc de fou, du convoi de l'eau, de se mettre en chemin et d'aller titiller les institutions, d'aller à Orléans et à dire à l'agence de l'eau, c'est pas possible. L'argent que vous collectez avec nos factures d'eau ne peut pas servir à détraquer le cycle de l'eau. On a poussé jusqu'au pied de la tour Eiffel, hein, avant la CR et compagnie. Et tout ça dans la joie, et dans la force, et dans l'effort, et dans la solidarité. On se posait également la question de savoir si on relançait un appel international à mobilisation, comment ça répondrait. On a collectivement imaginé ce village de l'eau qui est arrivé en 2024. Et une nouvelle fois, on a fait corps, on a été très nombreux, on s'est encore donné les moyens d'aller à proximité des lieux de pouvoir ou des lieux où l'agro-industrie, qui est clairement le grand promoteur et le grand profiteur des méga-bassines, on les a ciblés, on y est allé. Je crois maintenant en connaissance de cause. Sainte-Soline 2, je sais bien qu'on ne part pas à une promenade de santé. On a vécu Sainte-Soline 1 avant, on a vu le dispositif et ce qu'ils étaient capables de faire. Et je vous avoue que très sincèrement, mais c'est certainement de la naïveté, jamais, au grand jamais, je n'aurais imaginé que des ordres visant à nous tuer seraient donnés et exécutés. Maintenant qu'on sait que nos gouvernants et les sbires qui sont sous leurs ordres et qui leur obéissent sont capables de ça, eh bien évidemment qu'on doit reconsidérer nos stratégies, faire en sorte de ne pas s'exposer aussi facilement à cette violence policière. Ça signifie qu'on a appris à se déplacer ensemble, par des systèmes de mains, de signaux, etc., à faire corps. On a appris aussi que les camarades Black Bloc, dont on n'arrête pas de nous dire que ce sont d'affreux tueurs de flics, en fait, ce n'est pas du tout leur logiciel. Au contraire, c'est plutôt de protéger les cortèges et de faire en sorte que les plus vulnérables d'entre nous puissent exercer ce droit fondamental qu'est le droit à s'exprimer et à manifester. On a su faire preuve d'une grande solidarité. Il faut que ça continue, parce que le rouleau compresseur il continue à s'activer. Il y a mille manières de s'investir dans une lutte. Et on a nos cultures, nos faiblesses, nos courages, etc. Il n'y a pas une manière plus noble que l'autre. On s'organise ensemble, des cantines, aux cellules soins, aux cellules juridiques, à la LDH. Tout ça fait un ensemble qui fait que nous résistons à quelque chose qui commence à ressembler très sérieusement au fascisme. Nous avons intérêt, dans l'année qui vient, à renforcer ces manières de faire. Parce que les chemises brunes, elles arrivent. La perspective d'un gouvernement ou d'un État fasciste pour de vrai qui le revendique en tant que tel n'a jamais été aussi pressante. Et je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, nous soyons prêts à faire face à cette terreur et à cette tyrannie. Dans les mille manières qu'il y a de s'investir dans les luttes et de résister contre ces oppressions, eh bien on peut rejoindre les rangs de la LDH. C'est fondamental. On a besoin d'une LDH puissante. On peut rejoindre les associations de protection de la nature, qui vont, elles aussi, venir s'opposer à l'autoritarisme des préfets, qui vont décider de manière très souvent arbitraire et très rarement sourcée scientifiquement, que par exemple les bassines, ce serait vraiment super. Dans le pan de la résistance, tout ce boulot de fond qui est également accompli par les associations de protection de la nature, ça fait partie de l'attirail et des possibilités pour les uns les autres de s'investir. Et puis, y a tous les autres postes. Mais en tout cas, on ne sera jamais assez nombreux, et il y a une place pour tout le monde. Dobasarane.